Je peux parler,
Oui, bien sûr, bien
Oui,
sûr.
mais dans le micro.
Tout à fait.
Ladies and gentlemen, Axel speaking. Mais d'ailleurs, t'as une belle, t'as un beau casque de commandant de bord.
Pas ce micro-là.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Ce qu'il dit?
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possible. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer pour changer par Camille.
Oui.
Et Ichouchou.
Salut, en fait, t'avais juste une chance sur deux, enfin un choix sur deux.
Bah voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as la rage? Parce que pour une
non,
fois, c'est
non,
pas toi
non.
qui commence. Si, si,
non,
t'as
non.
les seums, je le vois bien.
Bah voilà, c'est pour changer.
Et comme seum.
Et comme promis, il y a 2 semaines, voilà, Axel a passé 2 semaines dans notre manoir, pardon à Manesque. Et donc, il est également avec nous.
C'était sympa, on a vraiment sympathisé. Maintenant, on se connaît bien,
c'est
chouette.
C'est chouette.
Il fait des grands feux de camp.
Ichouchou cuisine bien et tout, il fait des bons petits déj et tout. Donc, non, vraiment, passe des bons moments.
Très bon tagine.
Oui, bah, peut-être pas petit déj, mais.
tagine du matin.
Comment allez-vous?
Très bien, et toi, chef?
Bah, oh, merci, c'est gentil. Bah, ça va, ça va.
Comment se porte ton pantalon saumon?
Ah, s'il est décédé, malheureusement.
Voilà, je pense qu'il était temps d'en parler.
Je vais devoir.
Tu l'as pas congelé? Ou tu l'as décongelé et recongelé?
Bah, mais parce qu'en fait, je l'avais déjà commandé et du coup, avec la chaîne du fromage, je
Il est parti nager dans la grande rivière éternelle.
C'est ça. Bah, ouais, bah, c'est qu'une fois que tu coupes du saumon, s'il ne retourne pas nager. Hein. Non, il a décédé de trous dans les fesses, malheureusement. Donc.
Ça arrive à beaucoup de gens.
De trop haut niveau des fesses, voilà, mais il sera peut-être remplacé, à voir, à l'avenir. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant.
Ouais, peut-être un pantalon d'un autre poisson.
Bah, on a thon déjà.
Voilà, mais pourquoi pas un pantalon dorade.
C'est blanc, ouais, je peux peut-être trouver ça. Bon,
enfin,
on verra.
Envoie-nous tes suggestions, toi, l'auditeur, sur la couleur du futur pantalon poisson.
Ouais, bah, on verra ça. Et en plus, bah, peut-être que je peux essayer de m'en procurer un pour le prochain événement de Pardon Maman. Et quand est-ce que ça sera?
Non, bientôt.
On ne sait pas, mais genre tout bientôt.
Voilà, en vrai, on ne sait pas, mais on aimerait bien bah, tout bientôt, on va dire début. In chouchou, exactement. Début 2022, genre fin d'hiver, début de printemps. Début de printemps, ça serait joli. Pour
poil à temps pour la fin du variant.
Voilà. Non, mais en vrai, ça serait cool, on aimerait bien faire ça. Donc on va se renseigner, on va contacter des personnes qu'on aimerait bien inviter et voir si on ne peut pas faire un événement, soit un apéro comme on avait fait. Donc peut-être pas avec trop de monde, mais histoire qu'on ne se mélange pas non plus trop de miasmes.
Un petit live Galerie des Glaces.
Ouais, si on connaissait quelqu'un qui travaillait.
Peut-être qu'on connaîtrait des gens qui travaillent au Château de Versailles, ouais, qui pourraient nous permettre, je ne sais pas.
On va voir
mais
ça.
Mais oui, Camille, tu as des numéros de téléphone ou pas?
Et voilà, un live au Château des Glaces, moi, j'avoue.
C'est pas le Château des Glaces, hein, c'est la Galerie des Glaces ou le Château de Versailles.
Mais tu as niqué toutes nos chances.
Le Château des Glaces, on dirait une boutique de frozen yogourt.
Non, moi ce que je voulais, c'est le Château des Glaces, c'est le truc qui sort des glaces et tout.
Ou la Galerie de Versailles. Hein, c'est
Bah la Galerie de Versailles, oui, bah, on comprend. Ah là, vous êtes taquin. Bon, en tout cas, on s'organise ça. On connaît des gens, des gens qui, on verra s'ils nous aiment assez pour nous obtenir ce genre de choses, mais on verra ça.
On peut passer une annonce, hein?
Oui, c'est vrai.
Alors, Laurent Brunner, si tu nous entends et si tu veux bien, eh bien voilà, Madame Pégard, allô, Madame Pégard. Voilà, j'espère que je ne recevrai pas de courrier qui ne corresponde pas à ma demande, mais on ne sait jamais.
Bon, on verra ça, mais on vous tient au courant. Après ça...
De quoi est-ce qu'on va parler?
Mais oui, si vous vous souvenez bien, on avait fini l'épisode il y a 2 semaines sur un cliffhanger.
Oui, suspense.
Bouche bruitée, d'ailleurs.
Et bah, ça sera la suite.
Oui.
Avec ma suite.
Voilà. Donc c'est Chouchou qui va commencer avec la suite de cet atterrissage à... c'était quoi?
Pyongyang.
Oui, mais l'aéroport, c'est...
Ou Rome, on n'est pas sûr.
Mirim, je crois. Je sais plus, ça fait 2 semaines, hein, ça fait longtemps.
Bah oui, c'est ça, c'est la mémoire courte. Mais voilà, donc hâte de voir, parce que d'entendre ça, c'était un cliffhanger de ouf. Après, on a, mon Dieu, ça faisait longtemps, il nous manquait
Juanito.
Mais oui,
petit reportage. Donc on a hâte de vous faire découvrir la suite de ces aventures. Et enfin, je finirai cet épisode avec un petit sujet sur la caféine. Voilà, un truc pas trop long, mais encore une fois, bah, si vous vous demandez comment on trouve les idées de nos sujets, bah, c'était en prenant un café. Tout simplement.
C'est l'année de l'inspiration. Hein.
Voilà. Non, mais en vrai, c'est cool. J'ai trouvé des petits trucs à débunker et tout. Donc, c'est le petit sujet classique, pardon, cool. Maman, de un sujet qu'on pense connaître. Et en fait, il y a des petits trucs à découvrir. Donc, et j'espère que je pourrai vous les transmettre.
Si tu as trouvé ton sujet comme ça, comment Hicham a trouvé le sujet de l'avion qui arrive en Corée du Nord? Détourné par des gens qui ont des sabres.
Je dis juste que mon nom de famille commence par B-E-N. Et que non, je vais dire.
Mac Ben, tu es londonien? C'est fou. Maintenant, Mac Ben, ça finit par Ben. Ok, bon, bah.
C'est parti.
Voilà, trêve de blagounette. Allons dans le sérieux.
Jingle.
Previously on Pardon Maman.
On vient de quitter Tokyo. Mm-hmm. C'est le 31 mars 1970. Il y a 122 passagers, des touristes, des hommes d'affaires, des étudiants, des médecins en route vers une conférence et les 7 membres de l'équipage. À bord, il y avait aussi deux Américains, Herbert Brill, qui n'a rien à voir avec Manon Brill, et un prêtre romain qui s'appelle Daniel McDonald. Rien à voir avec... 15 minutes après le décollage de l'avion, un Japonais se lève de son siège pour prendre la parole. Il s'agit de Takamura Tamiya. Les mains en l'air! Ceci est un détournement d'avion.
Non.
Surtout, il n'était pas seul. 8 autres étudiants se joignent à lui. Et ils étaient tous armés, ils avaient tous des sabres, des flingues ou même des bombes artisanales. Les pirates de l'air prennent le contrôle de l'avion. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Des loopings?
Le plan, en fait, il est tout simple. C'est détourner l'avion pour aller en Corée du Nord.
Mais non.
Tout ça, c'était vraiment que pour être formé militairement et pouvoir lancer une guerre révolutionnaire une fois revenu au Japon. Du coup, ils demandent poliment aux pilotes de les emmener à Pyongyang. Ils font un arrêt au stand à Fukuoka.
Quitter la destination de base.
Oui.
Vraiment, ils sont
ouais, ben, enfin,
pas beaucoup de tourisme. Le pire détournement d'avion de l'histoire.
À 9h du matin, l'avion atterrit à Fukuoka. Après 5 heures de négociations, ils se mettent d'accord. Les étudiants devront relâcher quelques passagers, compte de l'essence, pour pouvoir aller à leur nouvelle destination, Pyongyang.
Ça a augmenté le prix du kérosène.
À 15h19, le vol de la Japan Airlines numéro 351 atterrit à l'est de Pyongyang. Sur les haut-parleurs, on entend « Vous êtes sur le sol de la République populaire démocratique de Corée, dirigée par Kim Il-sung. Vous, qui voulez combattre le système impérialiste japonais, bienvenue !»
Alors voilà, donc du coup, là, ils arrivent et ouais. Que se passe-t-il?
Ouais, et voilà, les cliffhanger, hein, vous avez attendu 2 semaines pour ça.
Les enfants chantent.
C'est... Oui, et du coup, donc, les pirates de l'air, ils étaient super contents. Ils sont arrivés à la destination voulue. Ils étaient contents,
ouais,
tout simplement.
Après pas mal de galères, quand même.
Ouais, et les passagers, un tout petit peu moins. C'était pas le but...
Il y a Airbnb en Corée du Nord?
Je ne pense pas.
Oui,
surtout pas dans les années 70.
Un club méditerranéen?
Je ne pense pas non plus. Donc, ils étaient toujours dans l'avion. Ils étaient toujours dans l'avion. Et là, donc il y a un escabeau qui arrive, donc cet avion escalier. Pardon?
Ouais, c'est l'escalier.
Oui, cette voiture escalier.
Ouais.
Pour désembarquer l'avion, un militaire se pointe avec un mégaphone pour leur dire qu'ils leur ont ramené un bus pour les escorter, pour escorter les révolutionnaires surtout, et les faire rencontrer le maître suprême, Kim Il-sung.
Sympa.
Mais c'est quand même trop beau pour être vrai. Hein.
Ouais, je trouve que ça sent l'arnaque, ce truc. Hein.
Pour moi, ils ont atterri à côté d'une prison japonaise.
T'as Jean-Yves Lafesse qui va sortir du truc. Hein.
En fait, ils font très bien de se méfier parce que, accrochez-vous, cette histoire va connaître un rebondissement. C'était un coup monté par les Coréens en accord avec le Japon et la CIA.
Non.
Donc ils sont pas du tout en Corée du Nord?
Ils sont en Corée du Sud.
Ah, c'est génial. Pas...
Et tu l'avais dit, il y a bien joué.
Mais comment est-ce comment ils s'en rendent compte?
Et ben en fait, il y a plusieurs.
Je pense qu'ils ont fini face contre terre avec un flingue sur la tempe.
Kimchi n'avait pas le même goût.
Il y a plusieurs théories, mais on viendra juste un tout petit peu plus tard.
Okay.
Il y a la CIA. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a deux Américains à bord.
Ah oui.
Vraiment, toutes les excuses sont bonnes pour amener la CIA.
Bien sûr,
parce
qu'il y a aussi le côté communiste. Mais
la CIA, j'avoue, ils voient de la lumière, ils y vont.
La lumière, c'était il y a un prêtre là-bas, donc il faudra qu'on y aille.
C'est un plan, et comment ils se rendent compte?
C'est
que...
ça, donc en quelques heures, les Sud-Coréens, ils ont dû s'activer pour rendre le russe crédible. Ils ont caché tous les autres avions, surtout les compagnies
occidentales. Avec des gros draps.
Non, mais ils... Allez,
on a mis des draps, on les a peints couleur du ciel.
Ils ont remplacé tous les drapeaux sud-coréens par les drapeaux nord-coréens.
Mais non.
Et les coordonnées données à Fukuoka aux pilotes, en fait, c'était...
En vrai, moi, c'est ce qui me paraissait le plus improbable. C'était que Parce qu'un aéroport, quand il va à pied, bah, c'est facile, il y a des portes pour rentrer. Mais pour de vrai, personne ne te laisse atterrir sur une piste d'atterrissage sans que tu te sois annoncé, machin et tout.
Bah, je te rappelle qu'ils ont entendu « This is Pyongyang, this is Pyongyang ».
Oui, oui, mais, mais pour le coup, si c'était le vrai Pyongyang, ça m'aurait étonné qu'ils
auraient... Ah oui, mais je pense qu'ils n'auraient même pas eu... Enfin,
ouais,
ils auraient explosé direct. Ouais.
Mm. Ouais, il y aurait une lumière, un bout, mais paf.
Donc, voilà, ils ont reçu les coordonnées de l'aéroport de Séoul et pas de Pyongyang. Et on ne sait pas vraiment si les pilotes ils étaient au courant ou pas. Donc, il y a plusieurs théories. Une théorie sur qu'est-ce qui a vendu la mèche. Il y a une d'entre elles, c'est qu'un étudiant a été interpellé par la présence d'un militaire noir. Donc ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, ils sont pas trop connus pour être bronzés là-bas.
Par contre, c'est quand même ouf d'avoir monté un tel plan en genre 2 heures et qu'ils aient laissé un militaire noir genre, ouais. Oh, désolé, mais on est tellement pas raciste qu'on ne voit plus les couleurs, on ne s'était pas rendu compte, ouais, désolé.
Une autre théorie, c'est que bah, ils auraient vu un avion de la American Airlines. Pareil, à Pyongyang, c'est pas...
Bah, c'était la livraison de Coca-Cola...
Et une de mes préférées, c'est, et je trouve ça vraiment pas bête de leur part, c'est qu'ils trouvaient ça louche qu'il n'y ait pas de portrait de Kim Il-sung.
Alors oui, ça,
c'est
pour le coup.
Ouais. Et une autre rumeur qui dit que bah, ils auraient demandé de ramener un portrait géant du maître suprême nord-coréen. Sauf que bah, là, t'as pas
le temps. Ouais.
Ouais, t'as pas le temps.
Faut le peindre vite. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont mis des enfants qui chantent. Ouais. Ils sont allés faire le tour des écoles. Allez, Timothée.
Allez.
Enfin bref, une seule chose est sûre, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et là, un bras de fer commence. Donc on commence à menacer de tuer les otages.
Attends,
de
parce
faire
qu'ils
exploser
on... Excuse-moi, je t'interromps, ouais. Mais ils s'en sont rendus compte en étant dans l'avion.
Oui, c'est-à-dire oui, dans ils l'avion. Ils sont jamais descendus de l'avion.
Voilà, dans l'avion, ils se sont dit, on ne croit pas à votre merde.
Okay. T'as le militaire qui est sorti avec l'escabeau, et puis.
D'accord.
C'est là où ils se sont dit, tiens, c'est quand même bizarre. Ouais. S'ils veulent nous emmener directement voir Kim Il-sung, c'est.
Ouais.
Ils ont commencé à. Okay. À se poser des questions. Du coup, donc, vu qu'ils ont commencé à menacer, à exploser tout ça, le Japon, il contacte la Corée du Nord. Pour essayer de trouver une
est-ce
solution.
Que vous envoyez quelqu'un
c'est ça,
parce
que, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez nous envoyer un portrait pour faire plus
là, vrai là, on a 8 connards, on ne veut pas les garder. Prenez-les, vraiment.
La Corée du Nord promet de les d'accueillir l'avion, de garder les étudiants en tant que demandeurs d'asile et de renvoyer de sitôt l'avion avec les otages.
Un avion à 2 millions, bien sûr, ouais. On va faire ça.
Les Japonais étaient un peu réticents. Et puis, tu as les Sud-Coréens qui disent « Fais gaffe, frérot, il y a 2 ans, des commandos nord-coréens, ils ont quand même essayé de tuer notre président. Je dis ça, je dis rien. » Du coup, les Japonais sont en mode, mais jamais de la vie, on envoie nos ressortissants directement
chez eux. Et les otages, on est d'accord que, en termes de mots à dire
Ah bah, ils n'ont pas grand-chose à
ils
dire.
Ils sont otages.
Bah, si tu veux, les otages, en tant que semaine de vacances, ça commençait pas terrible.
Ouais. Mais au moins, ils avaient toujours les bagages avec eux.
C'est vrai.
Au moins, ouais, c'est sûr que la compagnie aérienne n'avait pas perdu les bagages. Mmh. Pas de recherche avec le ticket, le machin, etc. Pas de déclaration. Elle était là, on savait, on les attendait.
En tout cas, donc le Japon, enfin les Japonais, le gouvernement japonais demande encore une fois de relâcher tout le monde et voilà, promis, on vous laisse tous y aller en Corée du Nord. Sauf que bah, forcément, ils refusent. L'ambiance commence à se tendre, on coupe l'électricité dans l'avion, les toilettes sont HS, ça commence à puer. C'est vraiment la HS.
Ça fait combien de temps là que ça dure ?
On y arrive. Okay. Les Coréens, ils veulent lancer une offensive.
On s'en fout, c'est des Japonais de
c'est
façon.
Ça. Parce que voilà, les Japonais, c'est pas chaud, c'est quand même nos citoyens qu'ils ont là, quoi. Et après quelques petites heures de négociation, 72 heures quand même,
mais non.
3 jours de négociation. Déjà, moi, quand tu fais un vol de 1h30, t'as mal.
Mais alors, non,
mais il n'y a pas assez de PQ.
Pas...
Déjà, dans une famille de 4, quand les WC sont bouchés, si tu veux, au bout de 3 heures, c'est déjà l'enfer. Imagine dans un avion, si tu veux.
Mais non, les négociations ont duré 3 jours.
Oh là là là.
3 jours.
Et si
on leur envoyait des clubs sandwich
bah, ils avaient des plateaux repas.
Oui, mais pas pour 3 jours.
Et la qualité bouffe des avions.
On leur ramenait à chaque fois.
Ah, on leur ramenait.
On leur ramenait.
Oh, c'est horrible. Et manger de la nourriture d'avion pendant 3 jours.
Le temps est long, ouais. Mais bon, au moins, t'es vivant.
Et puis, bah, surtout, au bout de 3 jours, bah, on arrive à un compromis. On troque tous les passagers contre un VIP. Ce VIP s'appelle Yamamura Shinjiro. C'est le ministre des Transports dont j'avais parlé au premier épisode. Du coup, donc, on libère 50 otages. Yamamura rentre dans l'avion.
Ça, c'est ouf qu'il
a accepté. C'est là où on dit, il est dans la merde.
Pardon ?
Par rapport au
WC.
Ah, au WC, ouais. Et du coup, ouais, 3 jours avec des WC HS.
Non, mais après, je pense qu'ils ont pu aussi les drainer. J'espère. Parce que...
En fait, nous, c'est la vie pratique qui nous intéresse. Si tu veux. Non, mais pas à côté. Au niveau de la nourriture, la cuisine, comment s'organiser, qui mettait à la table, qui débarrassait, qui faisait la vaisselle. Tu vois, mais... c'est ça qui nous intéresse dans la chronique.
Mais je trouve ça ouf qu'ils aient accepté de donner un otage VIP en échange.
Mais surtout, il était d'accord, le ministre ?
Oui, oui.
Bah oui, ils l'ont
oui, d'accord,
fait.
Non, mais ils l'ont pas. Une picouse.
Ils lui ont dit, tiens, on t'offre des vacances. Ouais. Et ils sont fous et tout le monde.
On lui a bandé les yeux. Et
allez.
C'est ta femme qui t'organise un anniversaire surprise.
Rendez-vous en terre inconnue, tu vas où ? Bah...
On sait pas.
Et donc, pas de douche non plus.
Non, pas de douche, ça commence à puer, c'est la hesse. Et du coup, donc voilà. Donc,
ils ne peuvent pas ouvrir les vides des hublots.
Ils ont libéré les 100 otages. Yamamura a pris leur place. Mm-hmm. Et le 3 avril 1970, le Yodo quitte Séoul. Yodo, je ne crois pas l'avoir dit au premier épisode. Okay. C'est le nom de l'avion. Mm-hmm. C'était écrit sur l'avion. C'est un peu comme le RERC.
Oui, il est marqué RERC.
Non,
les
Kilis.
C'est ça. Voilà, ouais. Sauf que là, c'est écrit Yodo.
Les SIM.
Cette affaire est connue sous le nom de Yodo. Okay. Yodogo. Donc, à 19h21, l'avion atterrit en Corée du Nord. Il est accueilli par de vrais soldats nord-coréens cette fois.
Pas d'enfants.
De vrais enfants qui rentrent.
Non, pas d'enfants. Mais là, c'est assez compliqué la suite de cette chronique parce que la Corée du Nord, ils ne sont pas très connus pour donner des informations. Ouais. Donc, j'ai plusieurs sources qui disent plus ou moins la même chose.
Mais il n'y a que ça comme source d'information. Voilà. Donc,
Et
nous, tu es notre seule source, donc vas-y.
Ah, oh, c'est beau ça. Vous êtes dans la merde. J'ai trouvé un truc que je trouvais assez drôle, c'est en arrivant, quand les étudiants sont descendus de l'avion, ils ont fait une pause de karaté, ils étaient vraiment super contents.
Mais
ils
non,
étaient vraiment
aux anges. Tintin, yata.
Et le truc, c'est qu'ils ont, ils sont arrêtés pendant plusieurs jours. Ils ont été interrogés pendant plusieurs jours, plutôt.
Bah ouais.
Parce que c'est quand même grave chelou leur histoire aux étudiants. Et puis, Corée du Nord n'a jamais entraîné personne. Enfin, ils ne sont pas connus pour ça. Donc, c'est chelou.
Ouais,
et
puis quand les gens te disent « Ah, on vous adore », c'est genre «
C'est ça.
Pourquoi ?»
Pourquoi nous ?» Du coup, donc, et puis surtout à Corée du Nord, ils n'ont pas du tout l'habitude, quoi.
Oui, touristiquement parlant, c'est pas...
Donc, le 5 avril 1970, à peu près à 7h du mat, donc 2 jours plus tard... Mm-hmm. Il relâche les pilotes pour retourner au Japon. Et à 9h39 du mat...
Et le ministre ?
Et le ministre aussi.
Oh. Et l'avion ?
Avec l'avion, c'est avec l'avion qui est rentré.
Comment honnête ?
Et les bagages des gens qui étaient dedans aussi. Donc 121h34 minutes...
Oui, parce
minutes.
Que ça fait quand même 3 jours qu'ils attendent les bagages.
Allez, vas-y, continue. On t'écoute.
121h34 minutes après la prise d'otage, le Yodogo atterrit à l'aéroport de Haneda avec à bord donc, le ministre des Transports, Shinjiro Yamamura, qui est le premier à sortir.
Qui a bien testé son ministère, lui.
Et puis, en descendant de l'avion, il a fait une annonce. Il a dit... j'ai
pause
fait
de karaté.
J'ai fait naturellement ce qu'il fallait faire. Je suis très content qu'on ait pu sauver la vie d'une centaine de passagers. Et je suis encore plus fier d'avoir pu faire le chemin du retour avec cette équipe-là.
Grande classe, ceci dit. Enfin, moi, je vais admettre grande classe de la part du ministre. Mmh.
Clairement.
Il a eu un avenir politique, derrière ?
J'ai pas cherché, honnêtement.
D'accord.
Enfin, il est quand même le ministre des transports japonais, quoi.
Non, mais quand tu fais un truc assez incroyable comme ça, généralement, t'as une popularité.
Je sais pas
incroyable.
S'il a été canonisé ou pas, si c'est ça ta question.
Mais j'ai du mal à imaginer un ministre français actuel. Tu vois,
non,
je vois pas.
Même pas Marlène Schiappa. Non, je déconne. Du coup, donc ça c'était le ministre des transports. Il est suivi juste après par le pilote, donc Shinji Ishida. Le copilote et le mécanicien de bord. Et quand on a demandé au pilote, est-ce que ça va ? Parce que bon, il a quand même vécu une situation extraordinaire.
Ouais.
Moindre chose des choses. C'était quoi cette phrase-là ? C'est la moindre des choses qu'on puisse dire ?
Ouais.
Oui.
Ouais.
Bref.
Bon, on a saisi.
Bah, il
c'est
a répondu.
Qu'on puisse dire.
Oui. Il a répondu. Oh, je suis encore jeune, donc ça va.
Yes.
Il avait 47 ans, donc oui, c'est jeune. N'est-ce pas, Axel ?
Ok, si c'est fait à volonté.
Les ravisseurs, eux, ils sont restés là-bas. Et le truc, c'est qu'après le départ de l'avion, on a eu zéro news. Donc pendant 2 ans,
Okay.
Pendant 2 ans, on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils étaient encore en Corée du Nord? Est-ce qu'ils étaient vivants? Vraiment zéro information. Et au bout de 2 ans, ils ont fait une conférence de presse pour dire « Ils sont vivants
!» Yeah.
Et c'est tout. Donc les Nord-Coréens n'avaient pas l'intention vraiment de les lâcher non plus. Hein.
Mais enfin, ils étaient vivants, ça se voyait, ils bougeaient
oui,
ou quoi?
Oui, ils étaient là.
Ils étaient empaillés comme ouais, c'est ce que j'allais dire, comme d'anciens
ministres. Non, ils étaient là.
Comme d'anciens présidents, ouais.
Ils étaient là. Ils étaient là, j'ai pas vu la conférence de presse, mais ils étaient là. Et de toute façon, enfin, à la base, c'était temporaire, je vous rappelle, ils voulaient aller à Cuba. Sauf que la Corée du Nord, donc ça veut dire que la Corée du Nord n'est pas assez bonne pour vous.
Non.
Non, non, mais ça va pas à la tête, c'est le paradis des travailleurs ici, vous allez rester ici, vous allez nulle part. Et donc, ils ont été... et puis, ça les arrangeait un peu, parce qu'ils étaient quand même placés sur la liste d'Interpol. Ouais. Donc, ils ne pouvaient pas aller vraiment n'importe où. Ils ont été endoctrinés avec la philosophie nord-coréenne.
Tu m'étonnes.
Ils ont été utilisés pour de l'espionnage. Il y a eu des soupçons qu'ils avaient participé à des kidnappings de Japonais en Europe pour les amener en Corée du Nord. Tel fils, tel père, tel grand-père, je vous le rappelle.
Pourquoi faire ?
Il y a une théorie, on viendra juste après ça. Mm-hmm. Et le truc, c'est que les Japonais, ils ont dit qu'il n'y aura aucun lien diplomatique entre le Japon et la Corée du Nord tant que les ravisseurs ne reviennent pas à la maison. Les ravisseurs, ils ont essayé de négocier plusieurs fois leur retour au pays, après plusieurs années.
Ah en tant que terroriste, c'est pas facile.
Et puis surtout, leur condition, c'est que, ok, on revient, mais on fait pas de zonzon, quoi.
Ouais, c'est...
Et puis chose que le Japon a toujours refusé. Donc cette affaire...
Mais d'où, ok, on revient, mais on fait pas de zonzon, enfin...
Ça valait le coup de demander.
Oui, ouais. Qui tente rien.
Enfin, excuse-moi, mais tu détournes un avion avec un sabre. Tu perturbes le couloir aérien,
c'est
quand même.
C'est une vingtaine d'années après, quand même.
Oui, mais quand même.
Oui, il y a prescription.
C'est fin, je
non, je sais pas.
Ça a peut-être créé des petits traumatismes, quoi.
Ils ont essayé.
Mais c'est audacieux.
Mais tu vois, malgré toute cette affaire, apparemment, les ravisseurs, ils étaient super gentils. Il y a plusieurs interviews de passagers, dont le prêtre qui... Il y a un truc sur la BBC qui est assez intéressant. Je partagerai tous les liens. Mm-hmm. Où il disait, c'était juste des jeunes idéalistes embrigadés par le communisme.
Syndrome de Stockholm.
Ouais, il faut que jeunesse se fasse. Oh.
Ouais, mais le embrigadé par le communisme.
Bon, les curés, ils aiment tout le monde quand même.
Peut-être un peu trop parfois.
Peut-être surtout le mec de 16 ans. Bref, donc, là, je fais juste une petite parenthèse. Enfin, je vais continuer sur les dessous de l'histoire. Il y a un certain Takaya Shiomi, qui est l'ancien chef de l'armée rouge japonaise. Il n'a pas participé au braquage, mais c'était le cerveau de l'opération. Il n'a pas participé parce qu'il a été emprisonné juste avant. Il a pris 18 ans pour avoir organisé tout ça.
Putain la vache.
Mais aussi pour avoir organisé une attaque terroriste contre le Premier ministre en entraînant une cinquantaine de personnes dans une montagne.
Attends, quand tu dis qu'il a pris 18 ans, c'est-à-dire que ça lui a pris 18 ans pour organiser...
Non, il a pris 18 ans de prison.
Non, c'est de l'humour.
C'est très très drôle. Mais il a quand même pris 50 personnes dans une montagne pour les entraîner à tirer pour faire une attaque terroriste.
Bon, c'est leur taliban à eux, quoi.
Il y a un petit côté Al-Qaïda, en fait.
Ouais, mais le codename de cette opération...
Détourner des avions et s'entraîner dans les montagnes,
C'est, le codename de cette opération, c'était pique-nique.
Mais non.
Vraiment.
J'adore. Génial.
Pour inviter tout le monde, il a dit « Venez au pique-nique dans les montagnes ». Enfin bref. Et du coup, les autres... Les neuf étudiants, là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comme j'ai dit, c'est pas évident parce que la Corée du Nord n'est pas réputée pour sa transparence. Mmh. Takahiro Konishi, Shiro Akagi, Kimioro Yumoto et Moriaki Wakabayashi, donc c'est le bassiste, ils sont toujours en Corée du Nord. Et ce qui est drôle pour le bassiste, sur sa fiche Wikipédia, c'est « il est encore en Corée du Nord, entre parenthèses, if not dead », donc s'il n'est pas encore mort.
Parce que là, ils ont au moins 75 ans, là. Mmh. Ouais.
Yoshimi Tamaka, il a été arrêté par les autorités cambodgiennes à la frontière avec le Thaïlande parce qu'il faisait rentrer des millions de faux billets américains avec l'aide de la Corée du Nord. Mmh. Il a été acquitté en Thaïlande, mais il a été renvoyé au Japon où il a pris 12 ans de prison pour cette affaire-là, enfin pour le vol. Il est mort en prison en 2007 à l'âge de 58 ans. Yasuhiro Shibata, donc c'est le gamin de 16 ans de l'époque, il a été envoyé au Japon lui en 85 pour essayer de lever des fonds pour l'armée rouge japonaise, sous une autre identité, sauf que bah, il s'est fait arrêter au bout de 3 ans quand même. Il a quand même vécu 3 ans au Japon. Donc en 88, il a été condamné à 5 ans de prison. Et c'est grâce à lui que les autorités japonaises ont appris que Yoshida Kintaro, donc une autre personne, est morte en 85 pour des raisons de santé en Corée du Nord.
Yes.
Tout comme Takamaro Tamiya, 10 ans plus tard. Et le dernier, c'est Takeshi Okamoto. On croit qu'il a été tué pour avoir essayé de s'enfuir de la Corée du Nord. Parce qu'à un moment, il en avait marre, quoi.
Oui, je peux comprendre.
Et il voulait, enfin, les Coréens, ils voulaient vraiment pas les laisser partir. Donc, au bout de 7 ans, ils se sentaient un tout petit peu seuls, quand même, les 9 mecs.
Et puis, il faut apprendre le coréen, mine de rien.
Ouais. Donc les services secrets nord-coréens sont allés leur chercher des japonaises pour qu'ils se marient.
Mais non.
Et c'était surtout, enfin, on pouvait pas leur donner des nord-coréennes parce que Kim, lui, défendait la race aryenne. On va pas mélanger.
Ils sont traités comme des animaux.
Et du coup, il y a peut-être.
Ils ont vraiment été chercher des japonaises.
Ouais. Et donc au début, ils cherchaient des nanas bien de gauche plus, parce que c'était pas évident.
Ils sont allés juste, genre. Ils ont fait passer un petit casting ou ils ont kidnappé des jeunes femmes dans la rue ?
C'est ça qui est bizarre. On ne sait pas si les femmes qui ont été kidnappées en Europe n'ont pas servi justement à ça.
Mais non, c'est glauque. Quelle horreur.
Et genre, ils n'avaient pas le choix.
Comment ça ? Qui ?
Bah, au niveau du kidnapping.
Non.
C'était notre
blague.
C'était du tout venant.
Mais je crois qu'à la fin, ils ont pris ceux qui acceptent de venir en Corée du Nord, tout simplement. Et en mai 1977. Tous se marient en même temps, dans la même date et tout, et apparemment...
C'est plus pratique pour la location de la salle, en vrai.
Et même Kim est allé les féliciter en personne, je trouve ça drôle.
D'être de bons détenus politiques.
C'est ça.
Ah, fait plaisir.
Et comme de par hasard, un an après, ils étaient tous devenus papa.
Voilà. Oh.
Donc les enfants sont là-bas.
En 2001, en 2004, il y a quelques femmes et enfants qui ont pu rentrer au pays, mais qui ont été envoyés au Japon, enfin pas les enfants, parce qu'ils n'ont rien demandé. Mais les autres, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y en a encore 4 qui sont encore là-bas.
C'est l'ambiance, hein. Enfin supposément là-bas. Quoi.
Attends, les enfants, ils sont rentrés au Japon ?
Je ne sais pas. Honnêtement, normalement, oui, dans un des articles que j'ai vu, oui, ils ont accueilli des femmes et des enfants.
Alors donc, j'imagine que ça dépend aussi du sexe des enfants. Enfin, du genre des enfants.
C'est-à-dire ?
Bah, si c'était des garçons, potentiellement, ils les ont gardés pour l'endoctrinement et pour en faire des soldats.
Peut-être. Peut-être, je sais pas.
Mais ouais, ça a une fin plutôt glaucose.
Ouais, du coup, voilà.
Début rigolo, fin glaucose.
C'est ça.
Donc, je vais finir. Donc, le Yodogo, c'était le premier détournement d'avion de l'armée rouge japonaise. S'ensuit une toute petite période de terrorisme pendant près de 20 ans, quand même.
Ah oui, quand même.
Ouais. Entre autres, il y a eu un massacre dans un aéroport israélien en 72. Il y a eu 26 morts et 80 blessés. Une attaque à la bombe dans une boîte de nuit napolitaine en 88. Il y a eu 5 morts. Enfin, voilà. C'est pas...
Oui, au moins, eux, ils n'ont pas fait de mort parmi leurs otages. C'est tout à leur honneur.
C'est ça. Et en tout cas, voilà, donc, Fabrice Drouel, si vous voulez de l'aide pour ce sujet, je suis disponible.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci
ouais,
à vous.
Parce que, ouais, on t'a taquiné drôlement, mais c'était super intéressant. Et même si, effectivement, ça fait un peu comme les émissions à la télévision, tu sais, où affaires non résolues, etc. Ouais. Quoi. On te donne toute l'affaire mais... et à la fin, on te dit on les a jamais trouvées, on n'a jamais la solution. Donc tu restes avec un goût de trop peu, vraiment, mais c'était passionnant.
Mais c'est quand même hallucinant que personne autour de cette table n'a jamais entendu parler de cette histoire,
non,
alors qu'elle est juste dingue.
Elle est folle.
Et j'adore vraiment le petit plot twist ouais. Où c'était genre « vous n'êtes pas en Corée du Nord !»
Et tu l'as trouvé comment ?
Je l'ai trouvé grâce à une vidéo très très romancée. Avec, c'est un petit dessin animé de 10 minutes, je crois, que je mettrai le lien aussi parce que c'est comme ça que je suis tombé dessus sur YouTube en traînant. Et du coup, c'est très romancé.
Il est très cultivé.
Comme quoi, ton abonnement à Disney Channel, ça paye.
Mais ouais, mais moi, c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Souvent, tu regardes des docus, des machins, tu fais.
Prend tout.
Mais oui. Si. L'inspiration, ça ne se commande pas. Merci beaucoup, en tout cas, trop cool.
Merci.
En plus, ça faisait longtemps.
Oui,
ouais,
beaucoup apprécié. Et maintenant, on peut passer.
C'est à notre cher Juanito.
Exactement.
C'est parti.
Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui depuis la Nouvelle-Zélande, où j'ai décidé de couper l'herbe sous le pied de Ichouchou et de vous parler de l'oiseau qui avait un nom de fruit, le kiwi. Emblème du pays jusqu'à devenir le surnom de ses habitants, Le kiwi adulte est un oiseau qui mesure entre 35 et 65 cm de haut pour 2 à 3 kg et peut vivre jusqu'à 50 ans. Malheureusement, le kiwi est menacé. L'espèce a été décimée par l'introduction d'hermines sur le territoire néo-zélandais. En effet, l'oiseau n'avait pas de prédateur naturel et il n'a donc pas la capacité de voler. Mais attendez, le vent se lève et je vais profiter de l'occasion pour m'approcher et vous faire entendre le cri du kiwi.
Ça, je crois que c'est pas normal. Alors soit on m'a menti, soit ce kiwi vient de s'envoler. Cela dit, c'est peut-être à cause du vent. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est vrai que la plupart des arbres ont l'air de pousser à l'horizontale.
What ? Qu'est-ce que putain de quoi ?
What the fuck ?
Alors je me suis mis le plus à l'abri possible, et je reprends l'antenne avec quelques informations supplémentaires. J'apprends en effet que ce kiwi n'avait pas grand-chose à foutre ici, puisque je me trouve au point le plus au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Cet endroit s'appelle Slope Point, et se trouve seulement à 4800 km du pôle sud. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout, me direz-vous ? Eh bien cet endroit a une particularité qui n'est pas les kiwis, mais plutôt ses arbres et son vent. Les arbres qui nous montrent un phénomène appelé l'anémomorphose. L'anémomorphose, c'est quand une plante va se déformer pour s'accommoder au vent dominant. On en trouve des exemples en France, par exemple sur le littoral des Landes ou de la Bretagne. Mais ici, à Slope Point, les vents sont tellement violents et fréquents que ce sont des arbres gigantesques qui en arrivent à pousser totalement à l'horizontale. C'est un spectacle incroyable, mais il vous faudra mettre de bonnes chaussures et un coupe-vent pour venir l'observer, parce qu'aucune route ne mène à Slope Point. Vous devrez marcher une bonne demi-heure pour vous y rendre. Alors en parlant de rendre, je vais vous rendre l'antenne, car vous l'aurez peut-être remarqué, mais les conditions ne sont pas optimales pour l'enregistrement de reportage. À très bientôt les amis, et pensez à mettre une petite laine parce que c'est bientôt l'hiver. Au revoir.
Eh ben merci, notre cher Juanito. Ça me fait toujours plaisir de l'avoir. Et en, oui, on est d'ailleurs en discussion. On essaye de trouver un moment...
Avec la Corée du Nord pour le lâcher.
Non, mais pour qu'on puisse se retrouver, pour enregistrer ensemble, parce que ça fait super longtemps.
Mais oui.
Donc trop hâte. Et puis, j'espère qu'on pourra se retrouver pour enregistrer avant de faire un live. Ça serait quand même cool. Mais voilà, on y travaille. Bon, vous
on est prêt à embaucher des écolières pour chanter.
Non, vraiment.
Je suis trop avancé.
Plutôt pas chaud. Plutôt pas chaud, mais non, on espère vraiment que ça se fera bientôt, parce qu'il nous manque le petit chouchou. On va le voir de temps en temps à Montpellier, mais il nous manque quand même. Donc, écoutez, dans tous les cas, on vous tient au courant. Et je vous propose de finir cet épisode avec un petit sujet sur la caféine.
Oui.
Et c'est parti.
Vous voulez même pas prendre un chaud café ?
Un café avec 5 pailles, madame.
Ma mère aussi faisait le café comme ça.
C'est un café.
Rien d'autre, rien de spécial ?
Rien d'autre, c'est très typique, c'est tout.
Ok, alors donc, j'ai commencé par vous parler. En fait, j'ai beaucoup hésité à faire un sujet sur le café ou sur la caféine. J'étais pas très très sûr. Finalement, c'est un petit peu des deux. Bah, c'est un peu logique, vous verrez, mais bon. Donc, commençons par le café. Donc, la caféine, on connaît cette substance principalement grâce au café. Et de manière plus générale, bon, je vais pas vous faire un de tout temps les hommes, mais on a trouvé des indices de consommation de substances dopantes dès la préhistoire, et plutôt à la fin de la préhistoire d'ailleurs, et dans diverses régions du monde, que ce soit en mâchant des racines, des feuilles, des graines, voilà, c'est des personnes qui se sont rendues compte qu'on pouvait améliorer sa concentration, réduire la sensation de fatigue, etc. avec certains produits. Très classique. Petit à petit, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait obtenir les mêmes effets en les faisant macérer ou infuser dans de l'eau, chaude idéalement, donc c'était plus facile à consommer, à stocker, etc. Donc ça, c'était un peu l'évolution. Gros bond en avant, et on va revenir du côté un petit peu plus moderne, et c'est autour du 9e siècle qu'on commence à avoir des traces écrites, j'insiste sur le côté écrit, donc parlons de café dans la région de la Perse, et on y parle notamment de l'une des grandes sources de caféiers de l'époque, et qui est toujours pertinente aujourd'hui, vous la connaissez ça très certainement, alors c'est l'Abbassini. Ça, vous, je pense pas que vous connaissiez, mais ça se trouve où ? Est-ce que vous avez une petite idée ?
Chez Starbucks.
Yes. Non, ça, c'est une région qui correspond au nord de l'actuelle Éthiopie.
Ah oui.
Ben oui, café éthiopien, oui, parce que c'est oui. Une grande source de caféiers. Donc c'est assez peu étonnant de voir ces écrits apparaître à cet endroit du monde. Bah, d'une part parce que c'est proche de la source première de caféiers, et d'autre part parce que on est dans une région qui profite d'un boom scientifique et d'un accès au papier, ce qui permet de pérenniser et diffuser les connaissances. je vous rappelle notre sujet sur l'islam où on disait que bah, c'est notamment pour ça qu'il y a eu beaucoup de premiers écrits scientifiques en arabe, parce qu'ils avaient accès à des connaissances scientifiques et en plus à un moyen de les partager, notamment avec l'accès au papier qui était amené par l'Asie. Fin du petit point géographique. Et c'est notamment bah, grâce à cette origine en fait, qu'on connaît le café sous ce nom. Donc c'est issu de kahwa en arabe, enfin arabe, perso-arabe quoi. Et en fait la prononciation française, donc c'est pour ça qu'on dit kahwa aussi en, en ouais. français.
Normalement enfin, on dit kahwa.
Oui, ouais, bah, j'ai un mauvais accent, je fais ce que je peux. Mais la prononciation française, elle est dérivée de la prononciation turque qui est café. K-H-V-E-H. Et voilà, j'ai vérifié la prononciation sur Google Translate. Donc c'est bien ça. Et une des légendes, alors je voulais vous partager ce petit point rigolo, une des légendes de la découverte des bienfaits du caféier, je l'ai beaucoup édulcoré, mais c'est, ça décrit un berger en fait, qui va observer ses chèvres faire la nouba toute la nuit après avoir grignoté des caféiers. Il décide d'en consommer aussi et pouf, full concentration et full insomnie. Et c'est lui qui a découvert que bah, grâce au caféier, on pouvait bah, obtenir des capacités oulala, de foufou. Ça c'est une légende plutôt de l'Est... de l'est de l'Afrique, on va dire, nord-est de l'Afrique. Et je trouvais ça assez drôle aussi de voir que bah, dans cette région du monde, enfin, pas seulement dans cette région du monde, mais de voir qu'il y avait un usage de la caféine dans des endroits très éloignés du monde qui était assez commun, en fait. Donc, par exemple, au sein de l'Empire musulman, donc, il y avait consommation de café par des soufis au Moyen-Orient pour rester éveillé lors de longues prières. Et ça va peut-être vous rappeler aussi un autre sujet précédent. Même si je sais qu'on ne se souvient pas de nos sujets précédents, mais bah, les moines qui consommaient du thé au Japon.
Voilà. C'est vrai.
J'avais parlé pendant le sujet sur la cérémonie du thé. Donc c'est une façon de rester éveillé, de pouvoir se concentrer sur ses prières et sur la méditation. C'est un produit qui est plutôt bah, facile à importer, exporter. Bah, c'est des graines séchées, donc celles que la caféine qui va venir du café. Des graines séchées, torréfiées, c'est facile à stocker, à transporter. Et on commence à en voir plus régulièrement en Europe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc petit à petit, premièrement autour des ports, et après ça va pouvoir se généraliser en fait.
Est-ce que c'est pas lié aussi à cette époque-là au fait qu'on fasse plus de commerce avec les Amériques? Parce que si je ne m'abuse, l'Amérique du Sud aussi, niveau café, ils sont.
Colombie, Brésil.
Colombie, c'est ce que j'allais dire. Ils sont assez ouf niveau café là-bas.
Alors oui, et on verra par la suite que café et caféine également. On va distinguer les deux pour une raison qu'on verra par la suite. Mais en fait, on va commencer à parler du côté chimique. Alors, dans un premier temps, en fait, pour rester sur le côté. La démocratisation, on va dire, du café. En France, il me semble que c'était autour de Marseille, parce que c'était le port de Marseille. Et après, voilà, ça s'est étendu. Mais au début, c'était comme beaucoup de produits, comme quand le sucre arrivait, ce genre de choses. Ouais. C'est des trucs pour les hautes classes. Et après, on a vu plein de cafés émerger, mais ça a pris un certain temps. Et c'était pas encore théorisé. Donc là, on a parlé du café. Maintenant, on va parler un petit peu de caféine et de chimie. Donc la substance active du café... Bah celle qu'on va rechercher le plus en fait justement pour ses effets de concentration aide à ne pas ressentir les effets de la fatigue etc. Donc cette substance active elle va être isolée en 1819 par un chimiste allemand que je vais certainement très mal prononcer, donc Friedrich Ferdinand Runge.
Ferdinand c'était nickel.
Merci. Je vais l'appeler FFR, mais bon, Friedrich Ferdinand Runge, appelons-le FFR.
Fred.
Ben voilà, Fred, c'est très bien. Donc Fred, chimiste allemand. Donc en 1819, il va isoler cette substance active qu'il va appeler caféine, donc liée
donc,
au café.
Donc tôt quand même.
Alors assez tôt, et un truc que j'ai trouvé ouf, c'est peut-être bête, mais moi ça m'a... C'est mind blown. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ses recherches? Ou plus précisément, il y a une personne que Camille, je suis sûr que tu connais, je pense Axel, Ichouchou peut-être, moi j'ai appris très tard qui était cette personne, mais il y a quelqu'un qui lui a fait cette commande en fait. De
Napoléon quelqu'un. Bonaparte
Non, je vous rappelle que c'était un chimiste allemand.
Beethoven
Non, mais tu te rapproches, quelqu'un de très connu.
Un compositeur?
Si je vous dis Molière, Shakespeare...
Les frères Grimm?
Non. Molière, France.
Ah, Goethe.
Oui. Donc, il a initialement entrepris ses travaux à la demande d'un certain Johann Wolfgang von Goethe, qui est un auteur de ouf. Donc, c'est pour ça quand on dit la langue de Molière, la langue de Shakespeare, souvent, pour l'allemand, on dit la langue de Goethe. Et c'est lui parce qu'il était un grand amateur de café et il a commandé ses travaux à ce mec-là. J'étais trop surpris de retrouver Goethe au milieu de ses articles sur le café. J'étais genre, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? Je me suis dit, il va écrire une pièce de théâtre dessus. Non, c'est juste qu'il aimait bien le café.
Mais du coup, ça te banalise Goethe, quoi. T'imagines le mec à 2h du matin avec son mug, tu sais, son mug avec écrit j'adore maman.
Mais oui, et puis.
Il se remplit sa tasse.
Il kiffait tellement le café qu'il a chargé un chimiste de faire des recherches dessus et il a dû le payer, j'imagine, parce que ça coûte cher de faire des recherches.
Oui, il y a moyen.
Donc je trouve ça assez rigolo. Donc la molécule que Fred appelle caféine est la suivante. Ça va pas être facile à prononcer. Donc c'est la 1,3,7-triméthylxanthine. De formule chimique C8H10N4O2.
T'aurais dû commencer par ça.
Oui, c'est vrai. Donc, au cours du 19e pardon, et du 20e siècle, on va mener pas mal d'études en fait, sur ces substances qu'on trouve dans les graines de caféier. Et on sait depuis longtemps que le café donne un sentiment de coup de fouet, d'aide à combattre les sentiments de fatigue, etc. Et en analysant des produits similaires, on a trouvé des substances très proches de la caféine. Alors, on ne peut plus proche. Si je vous parle à ce que vous connaissez, bien évidemment, d'autres produits qui donnent des effets similaires.
La théine ?
Oui.
La cocaïne.
La taurine.
Alors, pas cocaïne, pas taurine.
Mais c'est pas la taurine qui booste dans le Red Bull ?
C'est les ailes.
Non, mais alors j'avais commencé à regarder justement sur la taurine, voir d'où ça venait, mais c'est la taurine, c'est un mélange de deux enzymes, je crois. Non, d'accord. Pas de deux enzymes, je sais plus. Mais bref, deux trucs qui sont produits dans le cerveau et c'est un truc de synthèse, mais qui est fait pour répondre à ça. Mais non, il y a beaucoup de caféine également dans le Red Bull.
Gurons-en.
Non, il y a guaranine par exemple.
Je connais pas
du tout. Ouais.
Qui vient du guarana.
Oui, le guarana.
Beaucoup utilisé dans les cosmétiques ou dans les boissons. Il y a des boissons
et qui est aussi utilisé comme le guaranzon.
Exactement.
Mais c'est quoi le guarana ?
C'est un truc qui booste. Alors, justement, donc je vous dis que c'était très proche de la caféine. On ne peut plus proche. Alors, la théine, la formule chimique, c'est C8H10N4O2. La guaranine, c'est C8H10N4O2.
Bis.
La caféine, c'est C8. Non, c'est la même en fait.
Oui, c'est la même. Voilà. Okay.
Donc, quand on parle de théine, guaranine ou d'autres choses, c'est exactement la même molécule. Donc, si on vous dit, d'accord. Ah, mais moi, je supporte pas la caféine, je prends que de la théine, chimiquement, c'est
coup
pareil.
De boule.
Et c'est-à-dire que les gens qui vont te dire, ah non, mais boire plein de café par jour, c'est pas bon, en réalité, t'enfiler des litres de thé par jour, c'est pas ouf non plus, c'est ça ?
Exactement. D'accord. Alors, la seule différence qu'il va y avoir, c'est vraiment chimiquement, c'est exactement la même molécule. Il n'y a aucune différence. Mais là, on parle uniquement d'une des molécules actives de ces boissons, de ces substances. Donc tout ça, c'est de la caféine et c'est purement et strictement la même, mais les différences d'effet, donc après, effectivement, entre le café, le thé et d'autres choses, ça vient des modes de consommation et de la concentration et des substances annexes. Donc dans la théine, contrairement à la caféine, enfin dans le thé, contrairement au café, c'est pas dans les graines, c'est dans les feuilles, donc potentiellement, ça va être moins concentré et c'est des choses qu'on va faire macérer plus longtemps, etc. Enfin, typiquement, la durée de macération, normalement, ton thé, t'es censé le faire infuser genre une minute. Si tu le laisses 5 minutes, oui, il va être potentiellement plus chargé que ton café grand-mère. Quoi.
D'accord. La différence entre un café et un thé, à peu près, fait pareil
Alors, je vous le donnerai après. J'ai pris quelques chiffres, mais ça va beaucoup. Alors, j'ai pris quelques chiffres et notamment, je me suis justement amusé à pas trop jouer sur les chiffres parce qu'on... Il y a notamment une étude que j'ai beaucoup aimée de début 2000, dont je vous parlerai à la fin, qui montre qu'il y a des écarts énormes. Et en fait, il peut y avoir des... Les écarts sont... Alors déjà, bon, une information que je peux vous donner en avance. Si tu prends plusieurs graines de caféier issues d'un même pied de café, en fait, entre chaque graine, il peut y avoir un rapport de 1 à 3 de concentration de caféine.
Ah oui, ok.
Donc ça peut être assez ouf. Et après, suivant les moutures que tu utilises, donc les moutures, c'est la façon dont le café va être moulu. Enfin, suivant le processus de torréfaction, de comment c'est moulu, comment c'est, etc. Ça va changer énormément et combien tu vas laisser infuser, etc.
C'est pour ça qu'il y a des cafés plus ou moins forts, qu'on sait dire...
Tout à fait.
Celui-là, c'est un 10, celui-là, c'est un 3.
Oui, exactement. Ouais, okay. Exactement. Et en plus, ça va être ça marche sur le 10 et le 3, ça marche quand ça va être sur des machines qui sont normalisées, par exemple. Ça prend toujours le même temps à infuser. Mais quand tu fais ton café à l'ancienne ou avec un perco et que soit tu tasses comme une grosse brute, tu peux faire rentrer plus de café. Donc, ça va, à chaque fois que tu vas passer de l'eau, ça va prendre plus de substance. Donc voilà, tout ça va changer, mais c'est effectivement plus facile à mesurer sur des machines normalisées. On va trouver aussi de la caféine dans d'autres choses. Et c'est un des points que je trouvais assez chouette. Donc, on a parlé... la théine, la guaranine, dans les feuilles de thé et dans les graines de guarana. Donc si vous allez maintenant au supermarché, vous trouverez plein de trucs au guarana, vous verrez. Mais il y en a aussi dans la cabosse de cacao.
Ah bon ?
Eh oui, dans le cacao, il y a beaucoup de caféine.
Enfin, genre un petit Nesquik, ça booste pas un Nesquik, mais un petit Van Houten.
Alors, Van Houten plus, parce que c'est dans le cacao, et dans un Nesquik, il va y avoir aussi beaucoup de sucre.
Oui, ce que j'allais dire, Nesquik, c'est du sucre et du lait.
Voilà, un peu de poudre de lait. Mais dans le cacao, il y en a pas mal, et ça, effectivement, tu demandais les quantités. Le chocolat noir, par exemple, il y en a pas mal aussi, donc je vous donnerai quelques petits chiffres. Il y en a dans la noix de cola,
La noix de cola, c'est quoi la noix de cola?
Bah, c'est ce qui va notamment servir à faire des boissons au cola, genre le Coca-Cola, pour ne pas le citer. Et ça, c'est ça qui contient la caféine.
Ah bon?
Ouais, c'est pas qu'on met du café dedans, c'est parce que c'est fait à partir d'une noix. Donc voilà, la noix de cola et le maté également.
Pareil, quand ça m'étonne pas.
Voilà, et quand on vous dit ah mais le maté c'est plus fort machin, c'est de la caféine simplement. Après il y a d'autres substances potentiellement qui vont donner une absorption rapide ou pas, tout ça, enfin ça peut changer, mais par exemple dans la noix de dans le cacao va y avoir de la théobromine par exemple, qui est une substance qui va être toxique pour les chiens. La caféine est également toxique pour les chiens, donc c'est pour ça que donner du chocolat est doublement toxique pour les chiens.
Parce que j'allais dire, le chocolat...
Tout à fait. Mais voilà, ça peut avoir des effets différents, notamment avec la théobromine.
Quand il y a peu de chiens qui prennent du café le matin.
Ouais.
C'est vrai.
En trempant leur tartine de chocolat dedans.
Pareil avec le tiramisu, hein, il ne faut pas lui donner à ton chien.
Pas de tiramisu?
Non, pas de tiramisu.
C'est vrai, parce qu'il y a du café.
Il y a du café.
Et, et de la crème.
Et de la crème.
Et du cacao, vraiment. qui va canner en deux, quoi. Donc les effets de la caféine, c'est important de savoir que c'est un psychotrope, donc c'est comme les antidépresseurs ou les somnifères, c'est une substance qui va avoir un impact sur l'humeur et sur le système nerveux. Donc la caféine va attaquer, pas assez fort, mais va vraiment cibler, j'ai pas donné de précision là-dessus, mais des récepteurs spécifiques du système nerveux, liés à l'adénosine, si vous voulez tout savoir. Mais voilà, ça va avoir un impact très direct là-dessus. L'absorption, alors c'est assez intéressant sur le produit parce que j'avais écouté notamment un podcast qui se demandait mais comment ça se fait que ce soit un produit qui se soit autant démocratisé et surtout un peu dans tous les endroits. Il disait, bah tiens, quand tu vas dans une réunion, un truc professionnel, etc., quasiment la seule boisson disponible autre que l'eau, ça va être le café. Pourquoi c'est admis et pas autre chose, et pas du thé, et pas machin. Maintenant, il y a plus de thé, etc. Mais notamment parce qu'en fait, l'absorption, elle est très rapide. Elle va déjà même atteindre le cerveau, donc ça va se diffuser dans tout le corps, etc. Et on peut voir les premiers effets apparaître dès quelques minutes, et le pic va généralement apparaître au bout de 45 minutes. Donc si tu as une réunion d'une heure, ça a du sens pour cette réunion de prendre un café au début, au milieu de cette réunion, parce que ça va avoir un impact direct sur cette réunion. Si on te donne un thé... et que t'as la pêche 3 heures plus tard, t'es genre pas ouf, enfin c'est gentil, hein, mais ça n'aide pas la réunion, quoi. Parmi les effets de la caféine, donc on va commencer par les effets à dose moyenne, on va dire, donc autour de maximum 400 mg par jour. Je vous donnerai après à quoi ça peut correspondre en termes de consommation, même si c'est difficile d'estimer. Mais on note une accélération du rythme cardiaque, amélioration de la concentration, enfin bref, vous les connaissez tous. Mais il y en a quelques autres qui sont assez intéressants, notamment l'effet vasodilatateur. Ça va dilater les vaisseaux.
Ah bon ?
Et ça peut avoir un effet problématique sur l'absorption d'autres substances. Donc par exemple, vous imaginez, vous passez une soirée très arrosée, oulala, fatigué, le lendemain, gros mal de crâne, qu'est-ce que vous faites ? Boum, paracétamol, boum, petit café. Et c'est un problème, parce que du coup, ça va faire en sorte de fluidifier le sang, donc plus grosse absorption des substances par le foie, ce qui va surcharger le foie et potentiellement attaquer le foie. Enfin, ça va faire travailler le foie plus que
après, c'est pour préserver ton foie, la bonne solution, c'est de ne pas faire la fête la veille et de pas trop boire la veille.
Oui, mais
pas bête.
Un problème, une solution. Quoi.
Alors, bien sûr, mais ça peut aussi avoir un effet sur d'autres médicaments. Mettons des médicaments qui vont être traités par le foie ou d'autres choses qui vont être liées au flux sanguin. Si on accélère le flux sanguin, ça peut créer une absorption plus rapide et donc problématique.
C'est ouais.
À plus forte dose, on a une augmentation du stress, de l'irritabilité, des insomnies. Bon, ça aussi, c'est très classique. Je ne vous apprends rien.
On dirait, ça fait la liste, les mêmes trucs que la clope.
Alors, petit truc,
j'ai l'impression.
Alors, j'en parle juste après sur la clope. Ouais, c'est un petit peu après. Mais okay. Ouais, il y a un truc assez particulier à la clope qui est assez rigolo. Donc, la caféine va agir sur la captation et la synthèse des hormones liées au stress. Bon, je vais beaucoup simplifier, mais elle va en quelque sorte rendre possible le stress qui, à très petite dose, la capacité de concentration peut être aidée par ce petit coup de stress parce que en fait, c'est comme si je vous demandais qu'est-ce que c'est que la peur. La peur, en fait, c'est une façon de mettre tous ces systèmes en éveil pour capter des informations et pour réagir à un potentiel danger. Donc, si tu permets un tout petit peu plus de stress à ton système nerveux, etc., potentiellement, tu peux être plus attentif, plus noter les détails, etc. Mais ça, c'est à petite dose. C'est comme faire du micro-dosing, on va dire, du micro-dosage, et ça peut servir. Par contre, si tu en mets trop, pouf, c'est là que tu perds ton attention parce que ton système va être perdu dans tous les sens et tu vas plus savoir où donner de la tête. Donc en première intention, la caféine peut avoir un effet anxiogène. Ça, c'est le tout premier effet que peut avoir la caféine en attaquant le système nerveux. Mais un truc plutôt... Donc, quand je dis anxiogène, c'est que ça peut justement générer du stress. C'est une des toutes premières actions. Mais il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'une fois synthétisée par le foie, elle va se transformer en substance qui, elle, va avoir un effet anxiolytique.
Donc, tu te tapes un petit coup de stress et après...
Tu souffres pour être zen, quoi.
Donc, suivant comment ton foie fonctionne, et c'est pour ça que c'est un des trucs que je voulais soulever quand tu posais la question, Axel, c'est que ça va énormément dépendre du métabolisme de chacun. Parce que potentiellement, par exemple, si t'as... Enfin, c'est pour ça que aussi tout le monde réagit différemment au café, à la caféine. Enfin, caféine, théine, etc. Ne faisons plus de différence. Mais à la caféine, c'est que, mettons, si tu as un système nerveux qui est déjà très actif et un foie qui est potentiellement déficient, donc qui va avoir du mal à traiter la caféine, bah, tu peux avoir l'effet, uniquement l'effet anxiogène et très peu l'effet anxiolytique. Ou l'inverse, il y a des gens que ça rend ultra contents, mais parce qu'ils ont très peu l'effet stressant et beaucoup l'effet anxiolytique.
Est-ce que c'est un vrai effet, c'est un effet important, parce que ou est-ce que c'est léger et l'esprit fait le reste ? C'est-à-dire qu'on boit du café et on se dit mais moi je bois du café, je dors plus. Et en fait, on peut dire que c'est souvent l'esprit qui fait qu'on dort plus, parce qu'on est persuadé qu'on va plus dormir et que le café a un effet très léger.
Alors ça, j'ai lu quelques études dessus. Alors déjà, dans tous les cas, la caféine va vraiment avoir un effet sur la capacité d'endormissement, etc. Donc comme on disait, on arrive pile poil à ce moment-là. Comme on disait, absorption, on va dire, pique au bout de 45 minutes. Et juste après, il va y avoir déjà une petite excitation, etc., qui va rendre l'endormissement plus compliqué, parce que l'effet anxiolytique, il va arriver qu'à la fin de la digestion, une fois que ça sera arrivé au foie. Donc déjà, c'est mort pour dormir. Et il y a un article qui parlait d'un warning, d'une mise en alerte, d'une alerte, sur l'effet placebo, enfin l'effet nocebo plutôt, lié au décaféiné. Donc le café décaféiné, j'en parle juste après des doses, mais prenons une tasse de café, café filtre, on va dire, avec un gros mug, ça peut faire entre 100 et 150 mg de café. Du déca, ça peut être entre 3 et 7 mg.
Donc, ah oui.
Ouais, donc c'est extrêmement différent. Mais par contre.
Il y en a quand même.
Oui, mais c'est 30, 30-40 fois moins. Donc vraiment, c'est totalement ridicule. Mais par contre, c'est là que l'effet nocebo, donc placebo négatif, peut agir. C'est que les personnes qui ne croient pas à la décaféination, entre guillemets, du café, peuvent avoir les mêmes effets et donc avoir palpitations cardiaques, insomnie, etc. Donc c'est l'effet placebo-nocebo, c'est ultra puissant et ça peut avoir un effet monstrueux dessus. Et voilà, typiquement, mon père peut prend très souvent un expresso, genre avant de se coucher.
What?
Ouais.
Mais moi, pareil, je peux me faire du café avant d'aller dormir, j'ai aucun problème. Ah non, vraiment, ça ne me fait rien, le café.
Non, mais typiquement, ça peut être simplement différence de métabolisme. Vous avez un pic d'absorption sur le système nerveux qui est inférieur et un effet anxiolytique à la fin qui est supérieur ou un système très lent, potentiellement, si vous allez dormir 6-7 heures, votre café va faire effet que beaucoup plus tard. C'est possible. En tout cas,
Moi, je pense que l'esprit est beaucoup plus fort. Donc, si tu as réussi à te persuader pendant des années que le café n'avait aucun effet sur toi, effectivement, il n'a aucun effet sur toi parce que c'est l'esprit qui prend le relais et qui contre le café. Mais ne sois pas persuadé de ça, tu verras, les choses vont changer.
Merci pour cet optimisme.
Alors, attention.
Ce message plein d'espoir.
Effectivement, l'esprit peut être très fort et scientifiquement, les effets placebo et nocebo, ça a été prouvé, ça peut être très très fort. Mais attention, parce que le temps d'élimination du café par le corps peut être très très long. Est-ce que vous avez une petite idée de en combien de temps, mettons, une tasse de café ? Mettons, allez, je prends une grosse tasse de café chez Starbucks, le truc plus grande taille, café filtre classique. Allez, mettons, c'est un bon gros café, ça me fait 400 mg de café. À votre avis, en combien de temps je vais l'éliminer de mon corps ?
48 heures.
Au moins, moi j'aurais dit.
Bon, c'est beaucoup quand même.
Mais elle dit beaucoup exprès, tu vois, pour tes torts, en fait.
J'aurais dit 5-6 heures.
Non, beaucoup plus par contre. En fait, l'élimination...
Oh, tu vas te calmer.
Enfin, moi, j'ai rien dit.
Et c'est là qu'on va voir le côté assez rigolo.
12 heures ?
Le côté... Alors... En fait, la donnée...
Ah oui,
la...
donc on peut tout te dire, t'es jamais content.
Mais laissez-moi finir ma phrase.
Qui est le plus près ?
En fait, c'est la quantité pour éliminer la moitié d'une... la durée nécessaire pour éliminer la moitié d'une quantité donnée de caféine, c'est entre 4 et 6 heures. Donc mettons, si j'ingère 400 mg de caféine, au bout de 4 à 6 heures, j'aurai éliminé 200 mg.
D'accord.
Peu importe la quantité que tu prends. Et
c'est à peu près c'est l'espèce de temps de demi-vie.
Donc 412 heures.
Non, je pense pas. Alors moi, ce que j'avais calculé, mettons, si j'ai un métabolisme lent et que ça me prend 6 heures pour éliminer la moitié d'une quantité, si j'ingère donc 400 mg de café à...
6 heures ou 6 heures
6 heures. Donc si j'ingère 400 mg de café mardi matin à 10 heures, 400 mg, c'est quand même pas mal. On arrive à une consommation pic du jour sans avoir de problème. Mais donc 400 mg à 10 heures, à peu près. Donc mardi à 16 heures, il me restera 200 mg. Et mercredi à minuit, il me restera 100 mg. 100 mg, ça peut faire l'équivalent d'un espresso ou d'un ristretto pas trop chargé.
Okay.
À minuit. Donc ça met quand même pas mal de temps. Et pareil, à 6 heures du matin, il me restera potentiellement une cinquantaine de mg à dégager. Ça, c'est que si j'ai pris un gros Starbucks. Bon, c'est pas une petite dose, mais c'est quand même très fréquent. En tout cas, ça arrive beaucoup pour les gros consommateurs de café.
Vous n'avez pas de limitation dans la pub, dans votre podcast là ?
Non. En plus, je parle d'une étude. On peut citer plusieurs marques, Nespresso, Grand-Mère.
Columbus.
Voilà, exactement. Comme ça, c'est fait. Donc, mine de rien, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on va aussi, notamment conseiller de pas trop prendre de café l'après-midi. Parce que du coup, pendant la nuit, en fait, ça va troubler la nuit. Ça va créer des micro-réveils, etc. Et quand je parlais de l'effet des fumeurs qui est très rigolo, c'est que l'élimination du café par le corps, je disais, c'est entre 4 et 6 heures pour la moitié d'une quantité donnée. En fait, pour les fumeurs, ça va être moins. Ça va être autour de 3h30.
Oh ouais.
Et c'est notamment pour ça qu'on a le magnifique combo café-cloc. Mais oui. Non, pas forcément caca. Non.
Ok.
Mais Café Club, effectivement, ils vont, alors je ne sais pas exactement par quel mécanisme, mais ils vont désintégrer plus facilement ces quantités de caféine. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des personnes qui vont prendre plus de café parce qu'elles vont moins sentir les aspects. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va reprendre la clope va aussi potentiellement augmenter sa consommation de café.
Mais tu sais que moi, là, ça va faire un an et demi que j'ai arrêté de fumer. Et un des seuls trucs vraiment où je me dis... me ferais bien une petite clope, mais c'est quand je bois un café, quoi. Et je pensais que ça disparaîtrait, le truc.
Ah bah...
Mais c'est le binôme magique, quoi.
La force des habitudes.
Ah, mais c'est incroyable.
Ça marche aussi avec la bière et le vin.
Ils sont créés pour aller l'un avec l'autre. Non, bière et vin, moi, ça y est, c'est passé, ça.
Ah, non, pas ensemble, hein. Bière et clope. Et...
Non, mais oui, mais c'est ce que je veux dire. Enfin, Ouais, je mélangeais tout dans le même verre.
Ouais, mais je comprends.
Mais...
t'es une gastronome, après tout.
Oui, je mets un peu de chouchène maintenant, en plus.
Non mais oui, c'est une force d'habitude très grande et en plus le café qui peut avoir un goût très fort couplé à la clope qui elle va atténuer les saveurs, c'est bien d'avoir un truc assez fort et assez amer qui va pouvoir rester.
Totalement.
Alors au niveau des usages, j'essaie de ne pas faire trop de chiffres sur ce sujet parce que les chiffres sont assez compliqués à manipuler et surtout en fait je ne veux pas vous dire le délire de une tasse de café c'est l'équivalent de 400 feuilles de thé. Aucun sens, ça dépend du café, ça dépend du thé. Mais par contre, quelques chiffres rigolos, c'est que le café, ça va être la troisième boisson la plus consommée au monde. Alors, c'est des chiffres qui datent d'une dizaine d'années, j'ai pas regardé le plus récent.
Ah, mais quand tu dis boisson consommée au monde,
derrière
tu parles
l'eau.
De...
Ouais, après,
oui, voilà, j'allais dire, alors, tu parles de boisson en mode « Ah tiens, j'ai envie de boire un truc fun » ou tu parles en incluant l'eau, quoi.
Alors, boisson, donc, troisième boisson la plus consommée au monde, après l'eau et le thé.
Ouais, ok.
Ah, le thé, c'est plus consommé.
Ouais, c'est pas...
ça m'étonne pas du tout.
Avec l'Inde, la Chine.
Toute l'Asie, ouais.
Effectivement. Et dans le top 5, alors fait intéressant, c'est que dans le top 5, on retrouve également les sodas. Et
le
top...
coca, je suis sûr.
Et les sodas de manière générale. Ah, okay, parce qu'en position 4, c'est jus de fruits de manière générale. Mais je trouve ça ouf parce que si tu regardes le top 5, top 2, c'est thé, donc caféine. Top 3, café, caféine. Top 5, soda. Et le soda le plus représenté, c'est le soda au cola, donc caféine également. Donc la caféine, en fait, est ultra présente.
Mais envahie.
Ouais, dans notre consommation, c'est assez ouf. On trouve également beaucoup dans les cosmétiques et l'industrie pharmaceutique parce que ça peut aider à combattre les effets d'endormissement de certains médicaments, etc. Ou simplement faire des remontants, boostants, ou simplement faire du...
le marc de café pour la peau, c'est super.
Voilà, potentiellement. Je ne saurais pas dire. Mais
pour les plantes.
Pour les plantes également, ouais. Si vous avez du marc de café, gardez votre marc.
Pour l'avenir aussi.
Oui, c'est vrai. Il y a des études qui sont en cours pour étudier les effets positifs de la caféine sur des personnes atteintes de Parkinson et d'Alzheimer. Donc elles vont potentiellement aider à attaquer ou régénérer certaines cellules, certaines protéines qui sont déficientes. C'est assez ouf. Donc là, pareil, c'est encore à l'état d'étude et je vous avoue que j'avais pas envie de me taper des tonnes d'articles dessus parce que ça sera un sujet à part entière. Mais je trouve ça assez fou. mais à ce jour, on note une efficacité moindre sur les femmes, mais on ignore encore la raison exacte. Mais c'est-à-dire qu'il y a des études qui sont vraiment faites. Enfin voilà, c'est un produit qui peut être potentiellement d'avenir pour ces deux maladies, et je trouve ça assez génial. Et effectivement, à petite dose, on considère qu'en dessous de voilà, 400 mg par jour, 400-500 mg par jour, on est plutôt OK. Ça peut aider à... en fait, ça peut être positif pour les notions d'apprentissage, etc. Par contre, plus, ça fout le bordel. Donc, c'est vraiment... Il faut gérer l'équilibrage. Mais donc, ça ne m'étonne pas, en fait, que ça puisse aider. Et puis, en plus, vu que ça touche le système nerveux, ça ne m'étonne pas que ça puisse aider à Parkinson et Alzheimer, qui sont bah, notamment liés à la mémoire et au système nerveux. Ça réduit également... Enfin, il y a des études aussi qui montrent que ça réduit les risques de diabète de type 2, principalement chez l'homme également, si je ne dis pas de bêtises, et effet bénéfique dans le cadre de crise d'asthme, logique, vasodilatateur, etc. Donc ça se tient. Maintenant, si on regarde très rapidement des petits chiffres, dose de café dans différents produits, j'ai pris des petits chiffres très rapides, mais en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Comme on disait, la préparation et le type de produit va beaucoup changer. Mettons, on parle de thé, mais en fait, il y a tellement de types de thé, le thé blanc, le thé vert, le thé bleu, le thé rouge, machin, bref. Plein de choses, exactement. Et quelle dose on va mettre et combien de temps on va laisser infuser, ce genre de choses. Mais bon, de manière générale... Si on a donc une tasse de café filtre, donc du bon café grand-mère dans un mug, etc., on va avoir entre 100 et 150 mg de café. Un café décaffiné, donc comme je disais, ça va être entre 3 et 7 mg. Donc c'est vraiment ridicule. Alors, sachant que le fonctionnement pour décaféiner, en fait, c'est qu'on va dissoudre la caféine dans les grains de café, donc on va les laver. On va la laver soit avec... Enfin, c'est des solvants. Donc, quand on dit solvant, faut pas penser que c'est... Oh là là, c'est de la Javel et tout. C'est peut-être de la Javel, mais en fait, quand on dit solvant, c'est juste qu'on va dissoudre, tout simplement.
D'accord.
Donc, j'ai vu des boîtes qui disaient « Ah, regardez, mais nous, on dissout différemment, genre avec du... c'était quoi déjà ?» Du, je sais pas, dioxyde... d'hydrogène, bref, un truc à la con, genre bah ça reste un solvant, c'est toujours un solvant, donc non, c'est du CO2, c'est avec du CO2 qui dissolvait, et j'étais genre bah c'est cool, mais bon, ça reste pas bon pour nous si on en ingère. Là, c'est cool, on en ingère pas, mais bon, bref. Donc bon, dans tous les cas, c'est simplement que c'est les grains de café qui vont être lavés avant d'être utilisés pour être moulus et, et utilisés. Boisson gazeuse à base de cola, donc globalement du Coca-Cola. Pour à peu près l'équivalent d'une canette, on va être autour de 40 mg. Pas tant que ça.
C'est pas énorme.
Ouais, j'étais assez, assez surpris. Et les chiffres que j'ai, c'est soit une canette, donc autour de 40, soit pour la demi-bouteille, donc le demi-litre, on va être autour de 70. Donc ouais, c'est pas...
Non, mais après, il y a déjà tellement de merde dedans. Que c'est, enfin, tu vois, c'est bien qu'on n'abuse pas trop.
Ah oui, bien sûr. Mais quand, enfin,
que ça reste équilibré au moins là-dessus, tu vois.
Alors oui, par contre, effectivement, là où c'est intéressant, et on va voir sur les autres produits, c'est vraiment la toute fin du sujet, vous inquiétez pas. Mais on va voir sur les autres produits. Faites gaffe quand vous mixez tous ces vices, parce que quand tu prends beaucoup de café, que tu prends aussi beaucoup de cola, que tu prends aussi du chocolat noir, tu finis ta journée, ton corps il a pas envie de dormir, c'est normal. Donc
tout excès est pas bon. De toute façon.
Exactement, c'est la dose qui fait le poison, tout à fait. Boisson énergisante à base de caféine, pour 250 ml, on a à peu près 80 mg de café, de caféine. Pardon. Ça, je vous encourage à regarder chaque boisson, parce qu'en fait, ça a été fait il y a une 10-15 d'années, les chiffres que j'ai. Regardez, parce qu'il y a, il y a beaucoup de boissons qui se sont créées, etc. Ouais. Il y a d'autres produits, maintenant, il n'y a pas que de la caféine. Donc, tu disais, il y a de la taurine, d'autres choses. Donc, vraiment, regardez tout ça. Mais si vous entendez parler de théine, guaranine, etc., c'est du café, hein. Enfin, c'est de la caféine. Barre de chocolat noir. Noir, effectivement, pourquoi ? Parce que c'est dans le cacao qu'il y a le café, pas dans le chocolat, enfin la caféine. Pour 28 grammes. Donc 28 grammes, c'est pas beaucoup, c'est un tiers de tablette, je pense.
Ouais, c'est vraiment pas grand-chose.
Mais, y a quand même...
mais même pas. Enfin, ouais, non, 28 grammes, c'est vraiment vrai.
Il y a quand même 19 mg de café. De caféine, pardon.
Dans du chocolat noir.
Ouais. Okay. Ouais, genre 4,90 dans ces eaux-là.
Ok.
Et dans du chocolat au lait, tu vas en trouver à peu près 2 à 3 fois moins.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Et dans le chocolat en poudre, ça va dépendre du chocolat, effectivement, s'il est très corsé ou pas.
C'est du poulain ou du Van Houten.
Exactement. Plutôt le Van Houten, d'ailleurs, parce qu'il est vraiment bien corsé en
cacao. Clairement, ouais.
Et alors, le dernier petit truc que je vous recommanderais, c'est de faire vraiment attention. Et voilà, la raison pour laquelle je ne voulais pas jouer avec les chiffres, c'est que déjà, j'ai... appris très vite fait sur la différence de café, genre arabica, robusta, etc. Ouais, ils peuvent avoir des teneurs très différentes en caféine. Un peu, ça m'a un peu fait penser au sujet sur la marijuana, où bah, en fait, suivant les plantes, elles vont avoir des capacités différentes. Et il y a même des variétés de café, enfin de caféiers, qui vont faire des graines avec très très peu de caféine. Donc voilà. Faites simplement attention à ce que vous consommez et lié aussi aux questions de Axel, ça va aussi dépendre du métabolisme de chacun. Donc si quelqu'un peut prendre 4 tasses de ce café-là et ça ne lui fait rien, bah, vous testez et voyez ce que ça vous fait, mais faites pas la compétition avec les autres parce que chacun a un métabolisme différent et le café peut avoir des effets, enfin la caféine peut avoir des effets très très différents sur le système nerveux, sur l'humeur, sur plein de choses, donc voilà. Faites attention à vous.
Et puis surtout, si vous avez besoin de boire du café quasiment quotidiennement pour finir vos journées, il y a peut-être un peu votre hygiène de vie à remettre en question.
Oui, et après,
un petit peu plus.
Et surtout, en fait, ça peut être très
bien. Le café n'est pas une solution.
Ça peut être très bien pour commencer votre journée parce que ça fait un coup de fouet. Et il y a des effets qui sont avérés. C'est pas que du psychosomatique, etc. Il y a beaucoup de choses qui disent que, enfin, de recherches qui disent que, voilà, si vous en tenez à aller entre 2 et 4 tasses par jour. Si vous ne chargez pas trop votre café comme une brute, c'est bon, cardiaquement, etc., ça ne va pas vous poser problème. Juste, prenez pas de café à 18h, c'est un peu dommage. Mais voilà, ce n'est pas non plus la substance du démon, elle n'a pas que des effets négatifs, au contraire. Mais par contre, faites gaffe à ce que vous consommez. Donc, je finirai avec cette étude de 2003. 2003, c'est une pâte de bêtise de McCusker. Ouais, McCusker, pardon, excusez-moi, qui ont fait des tests chez Starbucks, qu'on cite encore, mais parce que voilà, Starbucks, Columbus, citez ce que vous voulez. C'était en 2003, donc ça a pu changer, mais voilà, on peut se dire, Starbucks est très normalisé, ils ont leur dose, etc. En fait, ils ont fait un test où, sur 6 jours consécutifs, ils ont commandé la même boisson, qui était une tasse de 250 ml du Breakfast Blend. Sur 6 jours différents, ils ont mesuré la teneur en caféine de cette boisson.
Et ça variait.
Premier jour, alors je vais pas vous, si je vais tous vous les faire, c'est très vite, mais premier jour, 300 mg.
Ok.
Après 265 mg.
Ouais.
138 mg.
Mais non.
161, 159 et 163.
Ah oui, le mec qui a fait l'ouverture du lundi, il était chaud quoi.
Voilà, donc ça peut être du simple au double, mais voilà, suivant la mouture, suivant comment tu vas tasser, suivant si c'est des sachets différents, etc. Donc là aussi. Bah déjà, tu prends un café de 250 ml avec le fameux breakfast, je fais des air quotes, mais le breakfast blend, bah tu prends déjà 300 mg, c'est bien de ne pas en prendre 3 dans la journée. Mais en fait, bah, que tu peux t'attendre à avoir un truc comme le troisième jour pardon, à 138 mg ou 300 mg, la différence est énorme.
Ouais, clairement.
Donc voilà, je vous recommande de trouver votre café, celui qui vous va bien, ou votre thé, etc. Et puis bah, de ne pas en abuser, parce que ça peut avoir des effets géniaux sur votre concentration, même sur votre bonheur, parce que ça peut avoir un effet anxiolytique. Mais bah, ne vous faites pas trop de mal, pas la nuit, et puis laissez à votre corps le temps de l'éliminer, sinon il peut y avoir une accumulation et vous allez péter une durite. Voilà.
Quelle belle conclusion joviale.
Merci.
Par contre, sur les études sur le café, enfin, j'ai l'impression que ça change tout le temps, quoi. T'as des études qui disent que c'est très mauvais pour la santé. Si t'en prends plus que 3 par jour, tu vas avoir un cancer de je sais pas quel organe.
De l'épaule, je crois.
Il y en a qui disent, apparemment. Voilà. Et t'en as qui disent que c'est super bon pour la santé, c'est très bien pour le cœur.
Alors, pas forcément super bon, etc. Mais en fait, ça va être bon pour les personnes. Enfin, ça peut être OK pour les personnes qui n'ont pas de problème a priori. Donc, si t'as un problème cardiaque, bah, globalement, il faut éviter le café. Par contre, si tu n'en as pas et que t'as une consommation raisonnée, donc jusqu'à 400 mg par jour, c'est pas ça qui. Ça ne devrait pas être ça qui va te créer des problèmes cardiaques. Par contre, après, il va y avoir les codépendances, interdépendances, etc. Si tu rajoutes café plus clope plus machin plus truc,
oui.
Il y a moyen que ton cœur commence à dire bah, « frère, vas-y, laisse-moi souffler un peu ». Ou ton foie, pareil, si tu fais café-chocolat, et que tu rajoutes après un petit Doliprane derrière, ton foie il va dire « non, mais on se calme tout de suite ». Donc voilà, il y a souvent... là, j'ai essayé de regarder la substance en tant que telle, mais c'est vrai que ça peut beaucoup changer et puis les consommations ont beaucoup, enfin augmentent tout le temps en fait, ça en progression. Le café, le thé également. Et voilà, dernière petite info, potentiellement, à votre avis, la région du monde où on consomme le plus de café, ou le pays si vous l'avez.
Le plus en quantité ou en
ouais, par personne.
J'aurais dit les Américains parce que ils ont bien l'excès et puis leur americano là qui est dilué.
L'Europe.
Alors, effectivement, c'est l'Europe et ça sera à côté de la Scandinavie.
Ok.
Donc ça a été.
Tu vois, j'aurais dit plus l'Europe méditerranéenne, moi. Mais
C'était les Finlandais il y a quelques années, mais parce qu'ils font des cafés qui sont plutôt longs, longue durée, etc. Et je pense qu'il y a aussi une question d'alimentation différente. Mmh. Donc ils vont avoir une alimentation qui va beaucoup contrer les effets anxiogènes, parce qu'ils ont déjà une alimentation qui est censée contrer ça à cause du manque de sommeil. De soleil, pardon. Mmh. Donc, ils peuvent mieux le supporter. Et surtout, ils vont prendre des cafés longs, contrairement aux Italiens, etc., qui, eux, sont spécialistes du café, mais du café tout petit. Et donc, bah, dans un mug de café, tu vas avoir plus de caféine que...
Ok.
Donc, voilà, c'était la fin de ce petit sujet qui n'était pas si petit que ça, finalement.
Bien, merci beaucoup.
Ouais.
Ben, merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, hâte de reprendre un petit café avec vous.
Merci de m'avoir gardé 15 jours.
C'est
passé vite.
Tu étais un invité merveilleux. Vraiment, ton côté du lit toujours propre.
Moi, je t'aurais fait payer un loyer.
T'as fait ta part de vaisselle.
Ouais. Ouais.
Tu nous as lu l'avenir dans du marc de café.
Absolument.
Les histoires le soir avant de se coucher.
On a joué au cornhole.
Le petit bisou.
Le petit bisou.
Ouais, ça va, faudrait qu'on en reparle d'ailleurs. Je suis pas à l'aise.
L'histoire et le bisou, oui. Les soirs.
Non, mais c'est une respiration quand tu dors, c'est désagréable. Ouais. Je suis désolé.
Ouais, lever de la nuque là. Ça. Non, mais voilà, c'est un grand plaisir de te recevoir.
C'était un grand plaisir aussi, et voilà. Et je.
On te revoit dans 15 jours.
Je ne sais pas. En tout cas, peut-être pour la suite.
La galerie des glaces, ouais, bien sûr.
Mmh. Les aventures de la galerie de Versailles et
du palais des glaces.
Et du château des glaces.
Bah, ça sera renommé comme ça un jour, voilà. Et vous mordrez les doigts de vous être moqué de moi.
Les châteaux des glaces ou les palais des glaces, c'est pas les trucs dans les fêtes foraines où tu te tapes tout le temps les vitres.
Ah oui.
Je déteste ça, mon Dieu.
C'est ça.
L'horreur. Bon, en tout cas, merci. C'était un plaisir.
C'était incroyable.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres. Et à la prochaine.
Bisous.
Ciao, ciao.
Qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries ?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Ce qu'il dit !
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.